Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, bon réveil, les grandes gueules du sport. On vous accompagne tout le week-end, évidemment, vous le savez, le samedi, le dimanche de 9h à midi. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end de folie. Je vous compte tout ça dans quelques instants, mais vraiment, il faut tout arrêter et écouter RMC ce week-end. Au sommaire aujourd'hui, France-Écosse, la grande finale du tournoi des Destinations ce soir au Stade de France, une semaine après la sublime performance en Irlande. Les Bleus sont-ils à l'abri d'une désillusion? Ce sera la une des GG dans quelques instants, évidemment, j'ai pas envie de nous porter la poisse. À 10h, immense Paris Saint-Germain qui a sorti Liverpool à Anfield après un huitième de finale épique. Ce PSG peut-il entrer dans le cœur des Français? Ce sera le bras de fer des GG. J'ai un peu fait exprès avec deux plutôt supporters de l'Olympique de Marseille avec nous ce matin. Et puis 11h, retour au rugby et au poids de la France. Dans les instances, les Bleus ne décollèrent pas après la blessure d'Antoine Dupont. Le 15 de France est-il assez respecté? On se posera la question. Et puis 9h40, n'oubliez pas qu'il y a le retour de la Formule 1 ce week-end. On va débriefer les qualifs avec Jean-Luc Roy, les qualifs du Grand Prix d'Australie et déjà des enseignements à tirer. Les grandes gueules du sport, je vous les présente tout de suite. Ah, il fait son grand retour, il nous avait manqué, il nous quitte souvent. Une grande gueule qui, comme Vladimir Poutine, on aimerait bien qu'il nous foute la paix. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Oui, mais en même temps, t'es content quand je reviens que je te mets quelques petites bombes sur la gueule, non?
Exactement. Fous-nous la paix. Fous. Alors, tu étais prêt à nous mettre la paix? On veut la paix?
Non, je ne suis pas encore prêt.
Très bien. Très heureux de te retrouver, Christophe, ça va?
Ça va pas mal.
Tu seras évidemment...
Ah, la semaine dernière, on va faire une belle et longue journée aujourd'hui.
Ce soir, tu seras au Stade de France pour
France
Écosse.
Dès 20h, 20h minuit, parce qu'on même, on prend la place de l'after foot, rendez compte.
After rugby.
Ah, c'est exceptionnel, c'est une fois dans l'année, donc il faut en profiter.
Il faut en profiter. Sachez que le foot, pour tous les amoureux du foot, sera disponible en podcast.
À partir de minuit.
Voilà, mais allez, si vous écoutez la radio, eh bien vous tomberez sur Christophe Cessieux pour l'after rugby ce soir et pour débriefer cette.
Avec Denis, avec nos auditeurs.
Avec les copains, quoi.
Avec les copains. Avec
bien
la bombe.
Sûr.
Enfin, Denis, je ne sais pas s'il sera encore réveillé à cette heure-là parce qu'il est un peu vieux maintenant. Il faut. Ou alors qu'il se lève tard.
Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu Denis, donc je ne sais pas dans cette émission.
Je ne sais pas
si
il est plus dans l'émission. Non, il a décidé de boycotter l'émission.
Non. Il est un jour à Rio.
C'est ça, les producteurs.
À De Janeiro.
La semaine dernière, il a passé la nuit avec le prince Albert, par exemple.
Oui.
Ah oui. Bah alors, le lendemain matin, il était dans un bel état, je peux te le dire.
Pour faire la fête. Il a passé.
Évidemment,
la,
oui, passé, oui.
Ils se connaissent bien, non?
Ah, ils se connaissent très bien.
Ouais. Bah, tu sais tout.
Ils sont amis de bouteille.
Ok, bon, je vais reprendre la main. Une grande gueule qui, comme Vladimir Poutine, on l'appelle également le Goré. Philippe Saint-André, salut Philippe.
Salut JC, salut à tous.
Ça va, mon Philippe?
En pleine forme.
J'ai pas trop ce surnom, en fait. On l'appelle encore comme ça, mais.
C'est vrai? J'étais persuadé que t'adorais qu'on t'appelle comme ça.
Quand j'étais joueur. Mais j'étais avec le prince aussi, moi hier, voilà.
Ah, et chacun son tour, quoi.
Et son Altesse, voilà.
Okay. Il y avait Denis derrière qui suivait, non?
Denis était pas là, c'était la charité, premier repas de charité pour les joueurs et joueuses de rugby. Et on a passé une soirée exceptionnelle. Et il y a eu des très bons donateurs. Et j'étais à une table de fou, quand même. Ils ont acheté la montre du prince. 20 000 € pour les joueurs et joueuses, ce qui est bien. On a voulu fêter ça. J'ai dit, on va fêter ça, on va boire un coup 300 mètres. J'ai dit, on va faire la photo avec la montre. Ils avaient perdu la montre.
C'est bien. Bravo. Bon,
et heureusement, quand même, on était dans un bel établissement. Ils l'avaient gardé. Et donc, je leur fais un coucou parce que c'était une table de fou.
Oui,
quand tu dis que tu étais avec le prince et son Altesse, tu me rassures, c'est qu'une personne. Hein. C'est pas deux personnes. Non, t'as pas compris la blague.
Ah,
le prince, c'est son Altesse.
Son Altesse, c'est bénissime.
Exactement, bravo.
Ah, oui.
Je retenterai plus de blagues que Thomas.
Tu as tout à fait raison.
Attends,
il y avait 400 personnes aussi.
Je te présente tout de suite. C'était pas dans l'ordre, mais ok, je te présente maintenant une grande gueule qui, comme Vladimir Poutine, il a toujours besoin de quelqu'un à côté de lui pour gagner. Julien Beneteau, salut Julien.
Ça, c'est vrai. Bonjour à tous.
Tu voulais dire?
Je voulais te demander si... Toi, t'avais passé la soirée avec un prince ou une princesse, parce qu'on est
oui.
On est entouré
oui.
que de
notables. Désolé,
mais non,
Moi, désolé non, d'avoir une vie classique.
Hein. Non, l'autre, il rentre du fin fond de Californie, il est bronzé comme une vieille américaine. Non, mais attends, mais on se moque du monde là ou quoi?
Il n'y va pas pour le plaisir à Indian
Wells. Non, je suis sûr. Il n'y va pas pour le plaisir.
Il va pour travailler.
Il va pas au challenger de Châteauroux non plus.
Je suis content de voir que Christophe ce soir sera accrédité et en tribune au Stade de France, et pas à la porte.
Normalement, mais il faut que je m'excuse. Il faut que je m'excuse auprès de.
Les équipes techniques ont fait leur travail, il sera normalement accrédité.
Et puis, on peut m'accueillir avec des tomates.
Et puis une grande gueule qui, contrairement à Vladimir Poutine dans sa vodka Red Bull, elle retire la vodka. Marion Bartoli, salut Marion.
Bonjour à tous.
La fan de la boisson qui donne des ailes. Ça va Marion?
Yes.
Ça fait plaisir de te retrouver
ça va
dans
très
cette émission.
Bien, mais la même chose, écoute, ça fait un petit moment.
T'as passé un bon mardi soir?
Oui. Hein, tout va bien.
Anfield, tout ça. Bien. Qu'est-ce que c'était
oui,
beau. Hein.
Oui,
bon, on en reparlera.
Oui. C'était fabuleux.
Mais qu'est-ce qui chante, c'est pas idéal, ça déconne.
Non, mais de toute façon, plus rien. Non, mais plus rien ne peut m'atteindre, tu sais. Je suis à un niveau au-dessus.
Comme si, comme si ça
n'y arrivera pas.
Okay.
On exactement. Ça, on n'y arrivera pas. Tu n'y arriveras pas.
Le débat de 10h, il est que pour vous deux. Hein. Marion Bartoli, Julien Benneteau. Je me suis dit, si je leur pose cette question, ça va être magnifique. Oui, Marion.
Non, mais je ne souhaite pas le malheur des autres, j'y sais, tu sais. Je souhaite le bonheur de mon équipe, mais je ne souhaite pas le malheur des autres.
Ben c'est pour ça qu'on t'aime aussi, Marion. Merci beaucoup. Alors, dans les grandes gueules du sport, c'est l'événement aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous faire gagner. Tout d'abord, vous pouvez remporter vos places pour assister au quart de finale de la Ligue des Nations. Vous savez, il y a la liste de Didier Deschamps. France-Croatie, c'est dimanche 23 mars à 20h45 au Stade de France pour remporter vos deux places. France-Croatie, vous envoyez France par SMS au 732-16. France par SMS au 732-16. Le grand gagnant sera avec nous dans cette émission. Et puis, c'est surtout le grand retour des 100 000 euros net d'impôts. C'est ce que nous faisons gagner sur RMC, dans les grandes gueules du sport. Je vous explique tout ça dans l'émission. Ça peut tomber n'importe quand. Il faut absolument nous écouter tout au long de la journée. Les 100 000 euros.
Tout le monde peut jouer
un petit peu plus tard. Tout le monde peut jouer, sauf ceux qui sont présents dans ce studio.
Ah, vraiment.
Évidemment. On va débuter avec cette citation.
C'est le cachet que tu prends pour une émission, Julien.
C'est vrai.
Bon.
Ça, c'est le camembert qui dit au Roquefort, tu pues. Hein,
voilà. Merci.
Les cachets de Marion Bartoli.
Merci, j'y sais.
Pierre Corneille a dit un jour, le trop de confiance attire le danger.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Il y a bien écouté par au-dessus. Attention, la vitesse.
Oh non, il va.
Oui, c'est bien dit.
Top total.
Incroyable l'essai de Biel Viaré.
Les Français qui se jettent dans les bras les uns des autres. Incroyable suspense. Incroyable final. La France qui s'impose. C'est un véritable hold-up ici.
Dave Sherry qui va peut-être marquer. Il y a essai. Il y a essai pour les Écossais.
Même pas peur.
Il dégage ce ballon. Et victoire des Écossais dans ce premier match de préparation.
Même pas peur. Même pas peur.
Pour l'Écosse, voilà. Mais pourquoi on n'a pas dégagé
mais
ce ballon
vrai,
mais il fallait sortir ce ballon, on n'a rien à gagner.
Même pas peur.
La sauter, peut-être laisser écossais. Et ils se sautent dans les bras les uns des autres. Qui va donner la victoire à l'Écosse?
Même pas peur,
un peu quand même. Le jour de gloire, normalement ce soir au Stade de France, dernier match du tournoi Destination France-Écosse. Les Bleus ont l'occasion de remporter leur deuxième tournoi sous l'ère Galtier. Un tournoi qui n'a pas été, vous le savez, un long fleuve tranquille. Mais en ce samedi 2 mars, ils sont là où ils voulaient être. Un mois après le crash en Angleterre et une semaine après le triomphe de Dublin. Désormais, il faut gagner, tout simplement, sans bonus, sans rien. Mais il faut juste gagner, à tout prix. La musique qui fout les jetons. Et cette question, le 15 de France est-il à l'abri d'une désillusion? Oui ou non? Philippe Saint-André?
Oui.
Christophe Cessieux?
Non.
Marion Bartoli?
Oh, Christophe.
Ouais.
Oui.
Julien Benneteau?
Sans l'ombre d'un doute.
Ok, oui, j'ai trois noms, j'ai trois oui, j'ai
non,
un non.
Non, trois oui.
Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC, notre commentateur Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde. J'y sais, je me permets juste un truc, il faut gagner.
Salut
pour être
Will.
Tranquille avec bonus. Avec bonus, on est sûr de gagner.
Oui.
Sans bonus, il y aura les calculettes et on a une large avance. Mais je voulais juste te dire ça.
Oui, voilà, c'est bon, ça. Tant que les Anglais remontent 80 points, il faut quand même.
Voilà. Bon, non, mais c'est une précision importante. Ouais. Okay, c'est pas mathématiquement fait avec une victoire. J'ai bien compris. Alors, le gars à l'enflammade, Wilfried, est-ce qu'il touche aussi le 15 de France?
Oui, totalement. On va vous le faire de manière chronologique avec la semaine des Bleus. Mardi, c'est l'entraîneur des avants, William Servat, qui se présente devant la presse. Et donc, à ce moment-là, vous imaginez bien que le gros match en Irlande, il est encore présent dans les esprits. Peut-être aussi dans ceux des journalistes qui sont là, parce qu'on parle d'euphorie post-Dublin. L'euphorie est vite calmée par l'ancien talonneur.
Pourquoi vous voulez qu'il y ait une euphorie là? Aujourd'hui, on n'a rien gagné. On est en position de gagner quelque chose. Donc, quand on a la chance de gagner des matchs sur le tournoi à l'extérieur en Irlande, il faut savourer ce moment. C'est une évidence. Mais avoir gagné ce match sans mettre les choses dans l'ordre pour gagner le prochain, ce serait tellement dommage qu'aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ce qu'on en a fait.
Voilà, pam, première salve. Le lendemain, mercredi, aux côtés de Romain Tamac, c'est le troisième ligne François Cross qui, dans un esprit un peu différent, par la soif de titre de cette génération dite entre guillemets en or, on peut aussi le voir comme ça, une façon de ne pas s'endormir.
De la qualité du groupe, donc c'est pour ça que c'était un des objectifs aussi de ce tournoi, de se donner la chance de pouvoir remporter un nouveau titre. On s'est donné les moyens d'être à 80 minutes de le faire, donc c'est une position qu'on souhaitait en début de tournoi et on va tout faire pour aller chercher ce titre.
Un seul grand chelem en 5 tournois. Ils ont de l'appétit et ils le disent. Et enfin, le lendemain, c'était jeudi, on a rappelé quelques souvenirs à Fabien Galthié. 1999, exploit face aux Blacks en demi-finale de Coupe du Monde. Large défaite derrière contre l'Australie en finale. 2003, les Français roulent sur tout le monde, mais tombent sur l'os anglais en demi-finale. Et bis repetita contre l'Angleterre pour la Coupe du Monde en France après avoir sorti la Nouvelle-Zélande. Vous savez, ces montagnes pas russes, justement, mais françaises. Lui, Fabien Galthié, il était certain de ses redescentes.
En plus, je les ai vécues ces périodes-là, donc j'étais sur le terrain. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce qu'on est des Latins. C'est vraiment dans notre génétique que de parfois être dans la capacité de reproduire des performances. On sait que face à nous, ce sont des nations britanniques, anglo-saxonnes, qui se préparent très différemment, mais toujours avec un niveau d'intensité qui est égal. Nous, c'est spécifique à nous, c'est particulier. Il faut qu'on soit vigilant. Et j'ai toujours un warning là-dessus. Et je ne lâcherai pas les joueurs là-dessus.
Focus, voilà, la cible est écossaise et la récompense, messieurs dames, est au bout de cette très longue journée. Alors pas de bêtises.
Pas de bêtises, tu as bien raison, on est des Latins, donc il faut faire attention. Merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. Le 15 de France est-il à l'abri d'une désillusion? J'ai trois oui, j'ai un non dans le studio RMC, venez participer avec nous à ce débat au 32-16. Christophe, tu as entendu la réaction des autres et tu as bien compris
oui,
que
non, mais ils sont français, ils sont latins, on a battu l'Irlande, on est champion du monde. On devrait déjà faire le tour du studio avec la Coupe du Monde pendant qu'on y est. Philippe, je t'aurais bien vu entrer comme ça avec la Coupe du Monde. On est les champions, on est les champions. Voilà, ça, c'est bien, c'est français. Évidemment que on est tous persuadés, au fond de nous-mêmes, que l'équipe de France va l'emporter ce soir. On a tellement envie qu'elle l'emporte ce soir qu'on se dit que c'est dans la poche. Et puis l'Écosse, c'est quoi 25 000 licenciés. Nous, on en a 300 000. Donc c'est pas ces petits Écossais qui vont nous faire trembler quand même. Eh ben oui, mais justement, messieurs dames, il faut trembler parce que, comme l'a dit Galthié, comme vient de le dire Wilfried, nous sommes des Latins. Et les Latins, une fois un exploit réalisé, celui de la semaine dernière face à l'Irlande, était un véritable exploit, ont tendance à se reposer sur leur laurier. Et les Écossais, ils attendent que ça. 2021, Wilfried l'a rappelé, on devait les battre avec le bonus.
On n'était pas du tout les mêmes conditions.
Alors, exactement les mêmes conditions, Marion. Sauf qu'en plus, on avait Dupont. On avait Dupont en plus, tu te rends compte? Et là, on n'a même pas Dupont. On avait Dupont, on avait Ntamack, on avait Aldrit, on avait Penaud. Cette équipe avait tout défoncé. Elle était allée battre l'Irlande chez elle. Et elle avait perdu un tout petit point contre l'Angleterre. Ça vous rappelle rien, ça? Et pourtant, ce jour-là, on était là, en disant, ouais, bon, il faut qu'on gagne avec le bonus. Mais si on gagne, on va être champion d'Europe. On va gagner ce tournoi. Donc, c'est magnifique. Et ben voilà. On est tombé sur un os écossais. On a perdu 27-23. Adieu, vache cochon et grand chelem. On est parti une main devant. Et ça nous est arrivé régulièrement.
Mais non, pas régulièrement. Dis pas n'importe quoi. C'est
régulièrement.
Vrai. Ça, c'est faux.
Bah attends, 1999, est-ce que tu te rappelles?
Est-ce que l'Australie, ils sont pas aussi forts que les Blacks?
19... Non.
Non. Est-ce qu'ils n'étaient pas monstrueux, les Australiens?
1999.
Là, Wilfried, il dit 2003. On a fait quoi en 2003, en demi? On perd contre la meilleure équipe. Le seul truc, c'est 2007. Je suis d'accord. On bat l'écart. C'est un vrai exploit de battre.
Et on se fait taper par les Anglais qui sont mauvais comme des cochons.
Est-ce que c'est parce qu'on s'est...
Tu fais la même chose en 2007?
Non, je te dis 2007.
2003, 2007.
Ok. 2003, tu perds contre les Anglais en demi qui sont champions du monde. C'est les meilleurs.
Ils étaient meilleurs.
Donc c'est pas...
On les avait battus en 2003.
Il y a deux exemples. Et encore 99, il faut le prouver. Et le dernier, c'est 2007. C'était il y a 18 ans.
Non, mais je te parle
de... pas dire que c'est régulier.
21, c'était il y a 4 ans. 2021, c'était il y a 4 ans.
Non, mais attends, mais 2021,
ah, bah oui, mais c'est un accident. Non, ça arrive, mais les accidents.
Non, mais 2021, t'étais obligé d'aller chercher bonus offensif. Voilà. Ça n'a rien à voir.
Fallait les battre 21 points.
T'étais obligé d'aller chercher bonus offensif. Et Dulin qui reçoit le ballon.
Wilfried, il a dit qu'il fallait bonus offensif pour être tranquille.
Mais parce qu'il s'imagine, Wilfried, que l'Angleterre va remonter 80 points. Mais arrêtez bêtises.
Sauf qu'on le saura. Parce qu'à 21h, les autres auront joué. Donc on saura qu'une seule
victoire. Alors, Philippe, vas-y.
Ligue des Champions.
Mais non, mais bien sûr qu'il faut jouer le match, mais on ne peut pas dire qu'à chaque fois on va se faire avoir.
Je reprends la main. Je reprends
le coup Florent lui a fait du bien.
Il est 9h24. Christophe Cessieux fait son retour dans les grandes gueules du sport.
T'es sûr qu'il faut le retour, je suis pas certaine.
Alors, on va apporter de la sérénité avec Philippe Saint-André et puis après Marion Bartoli aussi. Puis je sais que Julien a des choses à apporter en plus pour répondre à Christophe. Non, vas-y, Philippe.
Le contexte, quand on perd contre les Écossais, il est complètement différent. C'est le dernier match, il faut qu'on les gagne avec le bonus offensif, il faut qu'on marque 20 points. Ça veut rien dire ce qu'il dit. Bon, en plus, après, tu reparles de notre génération, mais cette nouvelle génération est complètement différente. D'abord, c'est une génération qui a l'habitude de gagner. Ils ont été champions du monde des moins de 20 ans. Que ça soit les Toulousains ou la Rochelle, ils sont champions de France ou champions d'Europe. Ces joueurs, moi, ce qui me plaît dans cette génération, ils ont annoncé cette année sur un tournoi destination impair qui est compliqué parce que c'est 3 matchs à l'extérieur et 2 matchs à domicile. Ils voulaient gagner ce tournoi des destinations. Ils sont passés à côté à Twickenham sur un match qui était imperdable. Mais ils sont allés gagner en Irlande. Et là, ils ont
imperdable, tu disais.
Non, mais il est imperdable.
Et les Écossais finissent à un point l'Angleterre, comme nous.
Pareil. Oui.
Oui, mais il ne marque pas 25 points avec 25 en avant et 14 occasions d'essai qui sont galvaudées. C'est ça le truc. C'est le contenu, Christophe aussi.
Et surtout, regarde la première mi-temps des Écossais.
Non, mais surtout, aujourd'hui.
Ils sont devant tout le match.
On va vous les rediffuser juste
non,
après.
Non, mais aujourd'hui, ces joueurs, ils jouent à domicile. Ils jouent devant 80 000 personnes. Avec le banc 7-1, 7 avant 1-3 quarts, déjà, tu ne peux pas mettre d'intensité. Parce que le système de jeu de Fabien Galthié, c'est de concasser les mecs devant. Et après 50 minutes, rentrer.
De les reconcasser.
Et en plus, ces joueurs, ils jouent aussi Glasgow, ils jouent Édimbourg. On sait que contre l'Écosse, si on ne met pas d'intensité, si on ne monte pas très vite défensivement, si on ne met pas une grosse pression sur Russell, leur demi d'ouverture, ils conservent le ballon 10, 15 temps de jeu et on va se faire chier pendant 80 minutes. Donc ils savent qu'il va falloir mettre une intensité incroyable, qu'il va falloir mettre du combat dans chaque ruck. Et par contre, ils veulent gagner ce tournoi. Ils l'ont annoncé avant le tournoi destination et ils vont le faire ce soir, j'espère que Christophe...
face à l'Angleterre aussi et ils perdent, ils se prennent les pieds dans le tapis. Il arrive que cette équipe de France de tout temps, toute génération, la tienne comprise, se prenne les pieds dans le tapis. Donc c'est pour ça qu'il faut rester hyper concentré. Et Galthié, heureusement qu'il a connu ce genre de choses.
Mais ils le sont concentrés.
C'est pour ça qu'ils sont à la
on nous a dit tellement de fois ça. Mais les Français sont hyper concentrés. Non. Ils jouent l'Italie en quatrième match. On va leur rouler dessus, mais ils sont hyper concentrés. Mais souvenez-vous un peu du passé. Arrêtez de penser.
Mais faites-lui une piqûre pour le calmer, mais c'est pas possible.
J'ai pas besoin de piqûre.
Donnez-lui ses cachets, ses calmants. Je sais pas faire quelque chose.
Quand j'étais petit, Marion.
Mon Dieu, c'est pas possible.
Julien, vas-y, tu veux prendre la main.
43 points contre le Pays de Galles.
Ouais.
25 contre l'Angleterre, 3 essais et je sais pas combien d'occasions d'essais.
4 occasions d'essais
plus sur la dernière passe.
Mais tu perds.
73 points en Italie, 42 en Irlande.
Elle est super forte cette équipe. Elle est super forte.
Le staff, par rapport à il y a 4 ans, ils ont plus d'expérience. Les joueurs, ils ont beaucoup plus d'expérience. Comme l'a dit Philippe, ils sont dans une réelle volonté de vouloir gagner ce tournoi, gagner des titres, marquer leur empreinte, l'histoire du rugby français. Ils sont prévenus toute la semaine. Galthié et son staff les a prévenus, leur a rabâché les oreilles de pas tomber dans la facilité, que ça va être difficile, etc. Ils sont plus forts. Ils sont trop forts. N'oublie pas qu'il y a un dernier adversaire qui est l'arbitrage et anglo-saxon.
Ils ont trop d'expérience
et trop de tauliers dans l'équipe pour passer à côté ce soir. Et puis une dernière chose, l'Écosse préfère voir la France gagner le tournoi que les Anglais.
Ça, clairement.
Je reprends la main. Déjà, je m'excuse auprès de Marion parce que je dois marquer une courte pause. C'est ma faute, mais vous l'avez vu, le studio est assez dissipé. Autour de ces questions, je ne pensais pas qu'elle prendrait aussi bien menée par Christophe. Hein. On se retrouve dans quelques instants avec Marion, avec Wilfried, évidemment avec vous au 32-16 sur cette question. Le 15 de France est-il à l'abri d'une désillusion ? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi. Oh, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Eh oui, il a fallu 20 minutes à Christophe Cessieux pour déjà faire le tour du studio RMC. C'est comme ça que ça se passe dans les grandes gueules du sport avec Christophe, donc avec Marion Bartoli, avec Philippe Saint-André, Julien Beneteau. Dans 10 minutes, restez bien avec nous. Jean-Luc Roy sera avec nous pour le premier Grand Prix de la saison. Ça se passe ce week-end. Les qualifs, c'était tôt ce matin. C'est Lando Norris qui a signé la pole position. Il viendra nous donner toutes les dernières informations et notamment les Ferrari, mais aussi nos Français. Mais restons un instant sur notre débat avec ce France-Écosse ce soir, la finale du tournoi à destination. Le 15 de France est-il à l'abri d'une désillusion? Marion, on a bien compris que pour toi, c'était oui, les Bleus sont à l'abri.
Je suis complètement alignée avec les arguments de Philippe et de Julien, et j'aimerais, même si tout le monde nous ressasse, et en particulier Christophe, effectivement, ce match de 2021 au Stade de France contre la même Écosse, mais à cette époque-là, il fallait gagner absolument avec le bonus offensif, donc de plus de 21 points d'écart pour remporter ce tournoi à destination. On est dans les dernières secondes du match. Malheureusement, on mène, mais que de quelques points, donc les deux obligations nécessaires pour remporter le tournoi ne sont pas remplies. Effectivement, Dulin reçoit le ballon qui est gratté par les avants, et là, au lieu de botter en touche et de remporter le match, il essaye de jouer les points et puis on perd le ballon et le reste on le connaît. Mais on est dans une situation qui est complètement différente. Alors même si Will nous a dit qu'effectivement mathématiquement éventuellement oui, il faudra gagner avec le bonus offensif, ça reste quand même plus,
oui, pour les
plus
quarts de points.
Plus que très improbable. Donc il faut remporter ce match. Moi je m'attarde plutôt sur le niveau de jeu qui a été pratiqué, et là où je rejoins Julien aussi également, lorsqu'on voit le match contre l'Angleterre avec la physionomie du match, ce match ça a quand même la pression que si tu le rejoues 10 fois, tu le perds jamais. C'est-à-dire que là il y a eu un concours de circonstances avec un nombre d'en avant, de ballons qui glissent des mains, de choses qui arrivent, qui fait qu'il y avait quand même une ultra domination de la France, et qu'à la fin effectivement, malheureusement, ça se solde par une défaite. Mais moi je trouve que sur le contenu proposé sur tous les matchs, il y a quand même une manière de construire ces victoires qui a été extrêmement intéressante de la part de Fabien Galthié, encore une fois, qui a pris ce risque avec ce banc de 7 contre 1, et ça a provoqué pas mal de critiques, mais force est de constater qu'il a eu plus que raison, parce que ça asphyxie complètement les adversaires, et que la France, dans ce système de jeu-là, en plus en étant bien évidemment archi prévenue de ne pas se relâcher, de ne pas prendre l'adversaire à la légère, en plus aussi également avec la blessure d'Antoine Dupont, je pense aura vraiment à cœur de terminer ce tournoi en force, avec une belle victoire, avec une victoire nette, pour remporter un titre, remporter ce tournoi et faire fermer des bouches à beaucoup de personnes. Donc oui, pour toutes ces raisons, je ne vois pas comment la France ne peut pas avoir la coupe entre les mains.
Il y a des certitudes, bravo, il y a de la confiance, c'est ce que tu veux nous dire, Christophe, tu voulais apporter quelque chose d'autre au débat.
Une toute petite information, l'arbitre sera donc un certain Mathieu Carlet, qui a l'avantage d'être anglais. Il a donc l'avantage d'être anglais, sachant que l'Angleterre est encore.
Mais tu vas pas faire ça quand même.
Est encore en lice pour remporter le tournoi.
Donc
nous verrons tout à l'heure à l'issue du match de l'Angleterre s'il y a encore possibilité pour les Rosbifs de nous taper. Et à ce moment-là, nous verrons. Mais bon, ça peut être un élément à prendre en compte.
S'il met deux carton rouge au bout de 5 minutes, on fera un vrai débat.
J'ai l'impression que Christophe va être encore à l'extérieur du stade.
Il y a des gens
soir
qui vont prendre ça pour argent comptant.
Il va être désaccrédité par Wilfried.
Évidemment, c'est une boutade. Tu as raison de le rappeler de la part de Christophe. C'est une boutade, évidemment. Mais ça va dans son argumentation, en tout cas. Ça le sert. Les conditions de jeu ce soir, Wilfried, est-ce que ça nous dit quelque chose sur le match que nous proposeront les Bleus?
Tu veux dire la météo?
Nous faisons un point météo ou les conditions de jeu.
Il est encore dans sa chambre, il est encore dans son lit.
Sur le Cotentin, une dépression arrive. Alors que dans le golfe du Lion, il fait plutôt 6 degrés ce matin. Non, mais tu prends au dépourvu un peu, parce que je n'avais pas fait le point météo.
Ouvre les rideaux.
Écoute, on a un ciel un peu nuageux. Non, écoutez, normalement, je suis plutôt d'accord, la dynamique de la France. Enfin, qu'il pleuve, qu'il fasse sec. Même s'il pleut, avec le pack qu'on a, on a fendu en deux les Irlandais. Philippe, tu m'arrêtes, mais le pack des Écossais est fort, mais c'est pas les Sudaf en face, quoi. Nous,
il y a des records qui se jouent sur ce match. Hein. Il y a Louis Delbarré qui peut battre le record historique.
Ah, ben il y a plein de records. Il y a Thomas Ramos qui peut devenir le meilleur réalisateur de l'équipe de France devant Michalak. Ouais. Il lui manque 7 points pour passer devant Michalak. Il y a Damien Penaud qui a égalité avec Blanco, un essai, et c'est le meilleur réalisateur. Il y a Louis Delbarré. l'ensemble des sur un tournoi le plus d'essais, il est à 7 essais. Ouais. Le record, il est vieux d'un siècle. C'est il y a l'anglais Nelson Love en 1914 et Ian Smith l'écossais en 1925, c'est 8 essais et eux c'est un match de moins en plus. Et lui il en est à 7.
Peut égaliser,
voire les passer. Il y a autre chose, il y a le nombre d'essais sur un tournoi destination. Les Anglais en ont mis 29 en 2021, on en est à 26. On peut passer devant et enfin la différence de points, on est à plus 106 et c'est cette même Angleterre de 2001 qui a plus 149 pour le record. Alors, donc on peut Denis, battre, on peut faire tout péter ce soir.
Denis a mis tout ça sur son ticket en combo pour ce soir.
Ouais, il va dire je suis noir. Noir, c'est pas possible.
Alors c'est très intéressant ce que tu nous dis et ce sont les faits, Wilfried. Mais alors autant j'étais d'accord avec vous plutôt les GG, autant là c'est ce qui donne du crédit à Christophe.
Mais parce que vous croyez vraiment que...
Non. Si on se focalise sur... Ah bah attendez, on a déjà gagné maintenant, voilà ce que l'on peut atteindre comme objectif. Moi je trouve que c'est se tromper de combat.
Tu crois que Galtier...
J'avais rien dit, on m'a demandé.
Parce que tu crois que Galtier, dans son discours toute la semaine et dans son dernier discours...
Et tu penses que les joueurs... Ils ont pas ça dans le coin de la tête?
Mais jamais. Ils pensent qu'à la victoire.
Ramos, il sait qu'il va avoir 7 points marqués au pied. Ça, c'est sûr. Il le sait. Quel que soit son match. S'il se blesse pas à la 5e minute, Ramos, c'est fait.
Penaud, il peut battre Blanco. Est-ce que ça...
Oui, s'il peut, il va le faire, mais il va.
Mais il s'en fout, Penaud.
Penaud, des fois, il est sur notre planète. Ouais. Il est capable à 2 mètres de la ligne de faire une passe de 15 mètres pour décaler un autre joueur.
Oui, c'est vrai.
Ok. Ça n'a pas d'incidence.
Mais par contre, sur les conditions.
Mais ça va les galvaniser, au contraire.
Sur les conditions climatiques, normalement, il ne devrait pas pleuvoir.
Il va faire un peu frais.
Mais sincèrement, pour la France, il faut mieux de la pluie. Parce que les Écossais, c'est une équipe qui joue énormément. C'est une équipe qui prend énormément de risques. Ouais. Et étonnamment, pourtant, ils jouent à Édimbourg. Mais eux, ils préfèrent le soleil que la pluie.
Doute, Philippe.
Ce ne sont pas de vrais Écossais, alors, pour le coup.
Il y a pas mal de Sud-Africains.
C'est rare, les Écossais du Sud.
Van der Merwe, il est Sud-Africain.
Joe nous appelle au 32-16. Bonjour, Joe.
Salut l'équipe, ça va?
Ben oui, tout va bien, on est très en forme, comme tu peux le voir, déjà, dès le premier débat ce matin.
Ouais, je vois ça.
Est-ce qu'on est à l'abri d'une désillusion, mon cher Joe?
Pour moi, je suis plus d'avis avec Christophe.
Ah ben tu vois.
Pour moi, rien n'est gagné d'avance, parce que ça reste du sport de haut niveau, et sur un match, tout peut se passer. En plus, le meilleur joueur de l'équipe de France est absent. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de records à battre et ça peut mettre une sacrée pression aux joueurs. Maintenant, il faut voir comment Christophe Galtier va parler à son équipe.
Fabien.
Parce que pour moi, il n'y a rien qui est gagné d'avance.
Fabien.
Parce que ça Christophe, s'il parle aux joueurs.
Christophe a un peu disparu de la circulation, on va pas se mentir. Mais bon,
c'est pas les Christophe, ça, c'est tous les Christophe.
Non, mais. Excusez-moi, je me suis trompé de Galtier, pardon.
Ce sera peut-être d'ailleurs un autre Christophe dans le vestiaire ce soir. Mais là.
Mais après, pour être honnête aussi, je vais être honnête avec vous. Je suis plus du monde du foot, mais cette génération de rugby d'équipe de France, elle m'a vraiment fait aimer ce sport, elle m'a donné envie de les suivre, elle me donne vraiment envie de les suivre, parce qu'à la base, je vais être honnête avec vous, le rugby, je ne suis que quand il y a des gros matchs.
Ça, c'est génial.
Des France-Nouvelle-Zélande ou des France-Australie. Et là, avec cette génération, avec Antoine Dupont et les autres, ça donne vraiment envie de regarder tous les matchs, mais là, il est absent. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur un match aussi décisif? Est-ce que la France, elle va pouvoir nous sortir un match comme quand il est présent? Ça, j'en suis pas sûr à 100%. C'est pour ça que pour moi, rien n'est gagné d'avance. Et il va falloir vraiment tout donner, parce qu'on n'arrête pas de parler des records à battre, le record de Serge Blanco ou de Michalak, mais il va falloir le faire. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire aujourd'hui? Ça, j'en suis pas si sûr.
Ok, merci beaucoup d'avoir participé avec nous à ce débat au 32-16.
C'est bien qu'il y ait quand même des auditeurs qui aient les yeux ouverts quand même sur.
On reparlera évidemment du 15 de France à partir
quand
de 2
h. On aura gagné avec 30 points, et bien voilà, on va faire le débat.
Qu'il y aura une émission.
Qui sont,
une émission spéciale à partir de 20h, France-Écosse, prise d'antenne. Le coup d'envoi, c'est à 21h, avec Christophe Cessieux, Wilfried Templier, Denis Charvet, Pierre Thévenet en direct du Stade de France, et ensuite l'After Rugby. Vous n'allez rien manquer de cette soirée magnifique. Merci beaucoup, Wilfried Templier. Tu peux baisser les stores.
Tu peux refermer les rideaux, c'est beaucoup de chance.
Il fait nuit.
Vous avez tout compris, les maths, hein? C'est bon pour vous, s'il n'y a pas de bonus aux offensives, 86 points d'écart par rapport à l'Angleterre, c'est bon, c'est dans les têtes.
On a tout compris.
Sortez les calculs.
Merci beaucoup, mon cher Wilfried, et à ce soir, évidemment. Il y a du ski actuellement, ça se passe en Norvège, c'est du slalom géant avec Morgan Maury. Salut Morgan.
Bonjour l'équipe, bonjour à tous.
On en est où?
Après 7 dossards,
triplé suisse. Pour l'instant, Loïc Meillard, le champion du monde de slalom, est en tête de cette première manche du slalom géant d'Affiel. Il est parti avec le dossard numéro 1, 8 centièmes d'avance sur son compatriote Thomas Tümmler, 3 dixièmes sur son autre compatriote Marco Odermatt, leader de la Coupe du Monde de la discipline, qui joue peut-être le petit globe aujourd'hui. Son principal concurrent, Henrik Christoffersen, qui vient d'en terminer, est sixième à 1 seconde 48. Dans les 30 premiers dossards, il y a deux tricolores, le skieur alsacien Thibaut Favreau, dossard 14, qui était sixième des championnats du monde, et Lo Hangno, dossard 20, qui a fait un podium cette année à Alta Badia. Pour l'instant, triplé suisse, Meillard, Tümmler, Odermatt, mais c'est que la première manche, jour blanc à Affiel, des conditions de visibilité difficiles.
Merci beaucoup Morgan Mori. Ben voilà, on a un point météo avec Morgan et non ah ouais, avec Wilfried. Merci et à tout à l'heure. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des Grandes Gueules du Sport. Il est 9h43, vous écoutez RMC. Merci à tous de votre fidélité. Alors si vous dormiez à 5h du matin, c'est normal, mais il y avait des qualifications du Grand Prix d'Australie. On vous dit tout dans quelques instants avec Jean-Luc Roy, notre spécialiste. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les Grandes Gueules du Sport. RMC jusqu'à midi. Les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h46, de retour dans les Grandes Gueules du Sport à partir de 10h. Restez bien avec nous. Le bras de fer des GG, ce PSG, celui qui a gagné à Anfield, peut-il entrer dans le cœur des Français? On se posera la question. C'est extrêmement serré, mais alors très très serré. C'est du 50-50 pour l'instant sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Les GG ne sont pas d'accord. Nous allons avoir ce débat dans une dizaine de minutes maintenant. Mais tout de suite, la Formule 1. Alors, Lando Norris a dominé ce matin très tôt à Melbourne la séance de qualification du Grand Prix d'Australie. Vous le savez, c'est le théâtre de la première manche de la saison de Formule 1. Lando Norris qui va s'élancer devant son coéquipier Oscar Piastri. Donc McLaren, c'est carton plein pour cette première séance de qualification. Max Verstappen, le champion du monde en titre, quadruple champion du monde en titre, et troisième, qualif en demi-teinte pour Ferrari. Charles Leclerc est septième, Lewis Hamilton, oui, huitième. Les Français, Pierre Gasly, neuvième, Isaac Hadjar pour sa première saison, pour sa première séance de qualif, et 11e, Esteban Ocon 19e. Jean-Luc Roy est avec nous. Salut Jean-Luc.
Oui, salut JC, bonjour à tous.
Que faut-il retenir pour tous ceux qui nous écoutent là? Quels sont les principaux enseignements de cette première séance de qualification? Elle était extrêmement attendue évidemment.
Bien sûr, eh bien, écoute, tu l'as déjà évoqué naturellement, depuis les essais de Bahreïn et depuis la fin de saison dernière, on se doutait bien que les McLaren allaient être dans le coup. Ces confirmations, alors ils veulent pas qu'on dise que ce sont les favoris, mais si, évidemment que ce sont les favoris, et d'ailleurs pour monopoliser la première ligne, 84 millièmes seulement d'écart entre Lando Norris qui a arraché la pole au tout dernier moment. Par parenthèse, jamais un pilote australien n'avait décroché la pole sur son sol. Oscar Piastri pensait bien l'avoir, et tout le public aussi. Il y avait une clameur absolument incroyable. Et puis, dans les dernières secondes, Norris a fait mieux dans sa deuxième tentative. Donc, la première ligne sera entièrement McLaren. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une domination écrasante? Eh bien, oui et non. Oui, parce que, évidemment, la machine est supérieure, ça c'est clair. Le talent de Max Verstappen lui a permis de se hisser sur la deuxième ligne. Et même, il a détenu la pole un moment, hein, avant la deuxième tentative des deux pilotes McLaren. Donc, comme d'habitude, Super Max a fait vraiment le boulot, alors que la monoplace n'est pas vraiment là. Hein. Il suffit de regarder ce qu'a fait Liam Lawson, son nouvel équipier, le jeune néo-zélandais qui partira seulement 18e. C'est encore pire que Perez pour le moment. Et puis, on a aussi une Mercedes qui est là, celle de Russell. Et puis surtout, je vous réservais le meilleur pour la fin, c'est que normalement, il va pleuvoir. On attend vraiment des trompes d'eau, alors qu'il a fait très très beau là depuis le début du week-end. Or, la dernière course qui s'était déroulée sous la pluie, on sait que c'est un circuit qui n'est pas permanent, et bien c'était en 2010, et ça avait été plutôt chaotique, avec des voitures de sécurité, des drapeaux rouges et tout ce que vous voulez. Donc, je vous rappelle aussi que Max Verstappen avait triomphé au Brésil sous le déluge, en partant très très loin sur la grille. Donc, si je ne vous l'ai pas bien vendu, celui-là...
Alors, Jean-Luc, juste un petit mot des Ferrari.
Ouais, on est déçus,
parce qu'on a... On attendait tous que les Ferrari, que Hamilton soit le pole position en pole avec un millième d'avance sur Leclerc. Elles sont 8 et 9 quand même. Est-ce que c'est
7 et 8,
pardon. C'est quand même décevant. Mais bon, souvent, et tu en es d'ailleurs le premier responsable. On nous annonce bons et merveilles de certaines équipes. Et en fait, au moment des premières qualifs et du premier Grand Prix, il y a beaucoup de choses qui se dégonflent. Est-ce que le phénomène Ferrari s'est dégonflé ce matin et va se dégonfler dans les jours qui viennent?
Alors c'est beaucoup trop tôt, Christophe, tu me vois venir. Bah évidemment. Écoute, d'abord je vais vous dire, les 10 premiers là, les 10 qui étaient en Q3, ils sont tous en moins d'une seconde. Vous vous rendez compte? Donc les écarts sont vraiment ridicules. Alors évidemment, bah ça veut dire qu'il faut quand même être devant. Et on est déçu parce que Charles Leclerc avait été le plus rapide dans la deuxième séance d'essai libre et lui-même n'a pas retrouvé sa monoplace. Tu sais, parfois il y a des changements qui sont subtils. Et il l'a trouvée trop survireuse. Il l'a dit d'ailleurs à son ingénieur. En lui disant je sens pas l'arrière, je peux pas attaquer à fond parce que les murs sont très très près là, donc il est resté un peu en deçà. Quant à Lewis, bah c'est normal, c'est sa première qualif chez Ferrari, il le dit, il a dû modifier son pilotage, il ne sait pas encore exactement quand il demande une modification ce que ça va produire exactement dans le comportement. D'ailleurs il a fait un petit tête à queue à la fin, ce qui a d'ailleurs conduit certains pilotes à avorter leur deuxième tentative, donc ça a modifié tu vois la performance. Voilà, donc oui, c'est une déception pour les qualifs. Maintenant, il faut attendre un petit peu. Elles étaient bien, les Ferrari. Elles étaient vraiment dans le coup hein, jusque-là. Hein. C'est les qualifs. Ils ont raté les qualifs. Bon, ça arrive.
Ok, ça arrive. Julien Benneteau.
Oui, Jean-Luc. Là, on a parlé des équipes de tête. Juste sur le milieu et la fin du peloton, un mot sur Ocon. J'ai l'impression qu'il a encore pas de chance. Il a une voiture qui est mal née. Apparemment, ils sont derniers ou avant-derniers en grille. Et quid des Aston Martin? On sait qu'Adrian Newey est arrivé, mais plus pour travailler sur la voiture l'année prochaine. Est-ce qu'ils font l'impasse sur cette saison? Parce qu'ils sont vraiment loin aussi.
Alors, d'abord, pour Esteban, bah, écoute,
c'est dur, non?
L'équipe As, oui, là c'est une déception parce que vraiment même en fin de saison dernière ils étaient beaucoup mieux. Là ça va pas bien. Alors le jeune Oliver Berman, tu l'as vu, hein, le jeune ouais. Britannique de 19 ans, bah il a fait de conneries quoi. Il faut être clair. La première, il a mis carrément la voiture dans le mur. Il s'est excusé, mais elle était tellement détruite qu'il a fait 4 tours seulement dans la première séance d'essai libre. Il n'a pas pu rouler dans la deuxième. Dans la troisième, il a eu un problème mécanique. Bref, le pauvre, c'était mission impossible. Et là, il a pas pu rouler du tout. Donc bon, lui on l'élimine. Ça veut dire qu'on a travaillé que sur une voiture, ce qui, comme tu le sais très bien, puisque je sais que tu connais très bien la F1, bah ne facilite rien du tout. Donc effectivement là c'est très décevant parce que Esteban il a fait ce qu'il a pu, mais dernier temps derrière, précisément je l'évoquais, Liam Lawson derrière Nico Hülkenberg et derrière Kimi Antonelli, par parenthèse, lui c'est un petit peu la déception aussi. C'est un rookie certes, mais avec une Mercedes quand Russell se qualifie quatrième. Là, il est vraiment bien loin. Alors, l'autre question que tu m'as posée, ça concerne les Aston. Bah, écoute, on les a pas vus très très bien lors des 3 jours d'essai à Bahreïn au mois de février.
Ouais, c'est pour ça.
Donc,
et là, ça se confirme.
On les retrouve pas très bien. Ouais. Et Alonso fait la gueule, hein, d'ailleurs, clairement. Il répond à peine aux questions. Tu parlais d'Adrian Newey, tu as raison aussi, mais il a commencé à bosser il y a 10 jours maintenant, exactement. Ouais. Donc, tu vois, il peut pas avoir évidemment une action. Je pense que, ça y est, ils ont la nouvelle soufflerie, comme tu l'as certainement appris aussi. Une soufflerie à eux, alors que jusque-là ils étaient obligés de louer des heures ou des journées de soufflerie à Mercedes, donc c'était pas très facile pour travailler. Maintenant ils ont un outil performant.
Bah, la voiture sera prête dans 6 mois, comme ça au moins on est ravis. Juste, Philippe Saint-André avait aussi une question et j'imagine que Marion aussi. Philippe.
Ouais, Jean-Luc, comment tu analyses les qualifications d'Adjar, le jeune français
11e, hein, je le rappelle.
Oui, Isaac Adjar, oui. Ben écoute, très bien, jusque-là, il fait le sans faute. En essai libre, il a été impeccable. À Bahreïn, déjà, si on commence dans l'ordre, à Bahreïn, il a fait le boulot. D'ailleurs, tout le monde a loué son travail. Il est sérieux, il est appliqué. Là, il rate la Q3 d'un rien, vraiment, mais il est 11e sur la grille. Ben écoute, pour le moment, c'est carton plein. Maintenant, il va falloir faire le Grand Prix, mais il a fait des simulations de Grand Prix où il était solide également. Donc, ben là, il fait vraiment, vraiment bien le travail.
Ouais, par contre, son coéquipier est 5e. Lui 11e et son coéquipier 5e.
Oui, alors Yuki Tsunoda, c'est sa 5e année hein, au sein de cette équipe qui a changé 12 fois de nom. Donc ouais. Moi ça fait un moment que je l'appelle RB, alors on l'appelle RB comme ça, ou Hervé comme tu veux, mais RB c'est mieux. Donc parce que maintenant c'est Racing Bull hein, le nouveau nom de l'année en attendant le prochain. Donc en fait oui, Yuki là aussi il a la pression parce que
dans quelques courses il sera chez Red Bull, non?
si ça continue comme ça, il y a des
ils
chances.
Vont faire ça, ils vont le switcher.
Marion, rapidement avec Jean-Luc Roy sur ce premier Grand Prix de la saison, ses premières qualifs. Ce sera d'ailleurs demain, évidemment, on en reparlera de ce Grand Prix, Marion.
Moi, j'étais un peu plus déçu effectivement par Charles Leclerc que par Lewis Hamilton, parce que bon, j'ai eu la chance de recevoir Fred Vasseur il y a deux semaines maintenant, sur Bartoli Time, et donc il était évident que pour Lewis Hamilton, qui redécouvre complètement une nouvelle écurie avec une voiture totalement différente, même des systèmes de freins qui sont différents entre la Mercedes qu'il avait, la Ferrari, etc., qui mettent un tout petit temps d'adaptation, je pense que ça me paraît normal. En revanche, j'étais quand même assez satisfaite de son temps, parce que finalement, ils sont tous de 1 à 9 en 1.15. Donc, t'as Norris à 1.15.096 et Pierre Gasly qui est 9e en 1.15.980. Donc, je trouve qu'en termes de temps, Lewis Hamilton n'est pas du tout largué. Après, qu'il soit nécessaire pour lui d'avoir un temps d'adaptation pour connaître la voiture et connaître son potentiel, je pense que ça sera nécessaire. Mais tu parlais des conditions de pluie. En 2010, c'était Jenson Button qui avait remporté le Grand Prix en Australie sous la pluie et Lewis Hamilton avait terminé 6e. Donc je pense qu'avec son expérience justement d'avoir connu toutes ces conditions, d'avoir connu ces circuits dans des conditions compliquées, peuvent l'aider en course, puisqu'on sait très bien qu'il est quand même meilleur normalement sur des relais longs avec des courses longues, surtout sous la pluie. Finalement, pourquoi pas accrocher un podium.
Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous, mon cher. On a plus le temps malheureusement, mais on reparlera demain à 5h du matin. Ce sera le Grand Prix d'Australie. Et évidemment, tu seras avec nous dans les grandes gueules du sport pour débriefer tout ça.
Jean-Luc va nous faire un point dans Bartoli Time aussi, mon Jean-Luc. Hein.
Bien sûr, on
mais a saison reprend. Hein.
Toutes tes lumières ce week-end sur RMC. Tu es avec nous, Jean-Luc, pour ce Grand Prix d'Australie. Merci en tout cas pour ces dernières informations. On se retrouve dans quelques instants pour un bras de fer extrêmement serré sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est du 48-52. Ce PSG peut-il entrer dans le cœur des Français? On vous pose évidemment la question. Venez participer à ce débat au 32-16. Morgane Maury pour le slalom géant. On en est où en Norvège?
10e position provisoire pour Thibaut Favreau qui était parti avec le dossard 14. Pour l'instant, triplé suisse. Meillard, Tumler et Odermatt. Prochain tricolore, Léon Angnon avec le dossard 20.
Allez, à tout de suite sur RMC pour la suite des grandes gueules du sport.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.